Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité numéro 31 d'aujourd'hui a pour titre « Satan règne par la confusion des rôles ». Quelques petits rappels sur l'inflation par les prix et sur l'indice des prix à la consommation dans la rubrique et actualité économique générale ECO 1. L'indice des prix à la consommation harmonisé, IPCH, au plan européen. Pour la France, regroupe la métropole et les départements d'outre-mer, mais pas les territoires d'outre-mer. Cet IPCH permet une comparaison avec les indices de prix calculés de la même manière dans les autres pays de la zone euro et de savoir si le critère de Maastricht est respecté, plus 2% maxi par an. L'IPCH est différent de l'IPC français national et n'affiche donc pas le même résultat. Si l'on veut réfléchir à l'économie de la zone euro, il faut donc utiliser l'IPCH et non pas l'IPC français. La BCE ne suit officiellement que l'IPCH pour apprécier sa gestion de l'euro, laquelle n'a pour seule obligation statutaire que de contenir le dérapage des prix dans la zone euro à un taux égal maxi, ou si possible inférieur, à plus 2%. Ce qu'elle réussit avec le nouvel indice de 2005, qui n'était donc pas celui en vigueur de 1992 à 2005, lequel augmentait bien plus vite que le nouveau et mettait en lumière le dérapage incontrôlé des prix par la BCE. Dorénavant, elle remplit son rôle officiellement. Quand le thermomètre a la fièvre, remplaçons le thermomètre. Je vous mets quelques indices relevés en exemple. Janvier 96, 85,70, avril 96, 86,74, avril 2009, 106,87, avril 2010, 108,89. Sur 14 ans, l'augmentation de la quantité de monnaie nécessaire aux mêmes achats a donc été d'officiellement plus 27,06%, soit un taux actuariel de près de 2% l'an, 1,93 exactement, pour un taux nominal de 1,73. La grosse astuce se situe dans la moyenne des indices mensuels de 2005, rebasée à 100. L'indice de 96 est donc rétropolé, ce qui veut dire que le changement d'indice intervenu en 2005 ne permet plus directement de se faire une idée de la progression qu'aurait affiché l'ancien indice s'il avait été poursuivi jusqu'en 2010. Ces changements d'indice des prix ont été fréquents depuis 40 ans en France, qui donne donc le mauvais exemple à toute l'Europe, avec à chaque fois un nouvel indice augmentant moins vite que le précédent, ce qui rend l'IPC français complètement impraticable sur longue période et peu crédible. Les courbes successives de date à date de changement d'indice sont très parlantes à cet égard. D'où encore la nécessité aussi de ne réfléchir qu'avec l'IPCH, même s'il a déjà été changé une fois. L'INSEE, en France, a toujours bien précisé que l'IPC national n'a jamais été un indice des prix à la consommation, mais seulement un indice de prix. Grosse nuance qui échappe généralement à tout le monde, ceci d'autant plus facilement que cet IPC sert de base à presque toutes les indexations en France, d'où l'idée répandue qu'il prendrait en compte tous les prix, ce qui est faux. Il n'en est pas moins vrai que ce dérapage de 2% double les prix en 50 ans et donc la quantité de monnaie nécessaire aux échanges, ce qui est absurde et dangereux. Cela s'appelle en anglais la creeping inflation, l'inflation rampante. Elle est bien plus dangereuse que l'inflation à deux chiffres car elle alerte moins les gens qui croient à une quasi-stabilité monétaire. À l'abri de cette illusion, la progression des dépenses publiques est pour beaucoup dans ce dérapage puisqu'elles sont incluses dans tous les prix par le moyen de tous les impôts. La progression de plus 150% de l'endettement public, qui est passé de 660 à 1500 milliards d'euros durant la même période, indique d'une part que l'État n'a pas eu le courage de pomper les sous nécessaires à ses dépenses et donc que leur poids alourdi des agios bancaires menace d'une hausse brutale, sans cesse aggravée, l'ensemble des prix. et donc menace le pouvoir d'achat des gens, lequel peut devenir négatif en cas de vraie crise, ce qui veut dire que l'on aurait bien plus d'impôts à payer que la masse monétaire totale en circulation, et donc des revenus, d'épargne, comme en 1985, qui atteignit les 105%, mais ce serait là, cette fois, bien pire. Tout le monde est menacé de se voir réduit à moins que zéro. Comment bouffera-t-on dans l'avenir, je me le demande. Quand le thermomètre se met à intervenir dans le temps qu'il fait selon son idéologie, ces indications deviennent inutiles, l'anarchie s'installe. Dans l'actualité économique financière Écho 2, suite à ma chronique précédente, je relève un article disponible dans sa version originale au lien disponible dans la version écrite de cette chronique et que je cite d'abord in extenso avant de vous en livrer mon commentaire. Jim Rickards déclarait « Goldman Sachs peut créer des CDS 10 fois plus vite que l'Europe peut créer de la monnaie ». Je vous dirai après ce que c'est que le CDS. Jim Rickards, qui a été très présent dans les médias américains récemment à propos de la faillite de la Grèce et de la manipulation du prix de l'argent par JP Morgan, présente dans une interview sur CNBC une analyse brillante de la situation financière européenne. Il démontre en effet que toute tentative par l'Europe de se sortir d'affaires en imprimant de la monnaie est désormais condamnée par avance. Regardez ce que Soros a fait à la Banque d'Angleterre en 1992. Il s'est attaqué à la livre sterling. La Banque d'Angleterre avait un nombre limité de dollars. Soros vendait de la livre sterling et achetait du dollar, et la Banque d'Angleterre rachetait ses livres sterling en vendant du dollar pour défendre la parité livre-dollar. Tout ce que George Soros avait à faire pour gagner était de vendre plus de livres que la Banque d'Angleterre n'avait de dollars au cours fixé par Soros en plus. La différence est qu'à l'époque, il avait besoin de vrais dollars en couverture pour ce faire. Ça freinait un peu. Aujourd'hui, pour briser une banque centrale, vous n'avez pas besoin d'argent, mais seulement de vendre de l'euro synthétique à découvert ou des CDS. La BCE vient de lancer un plan de renflouement d'un trillion de dollars, 1000 milliards, dont 750 débloquables de suite et le reste au cas où. Goldman Sachs peut créer et vendre facilement 10 trillions de dollars d'euros synthétiques. Et donc, Goldman Sachs domine de très loin tout ce que les gouvernements peuvent faire. Pour simplifier, Goldman Sachs peut créer et vendre des euros plus vite que la BCE ne peut créer de signes monétaires en euros. Le plus comique ou tragique de l'affaire sera la fête que feront les banquiers centraux, la tête que feront les banquiers centraux européens du SEBC lorsqu'ils s'apercevront que les banques d'affaires et autres spéculateurs sur CDS avaient toutes les cartes en main depuis le début de ce jeu de bancaires menteurs. Signé Vénère. Je vous dis ce que sont les CDS. Ce sont des produits dérivés sur événements de crédit ou couverture de défaillance. En anglais, Credit Default Swaps, CDS, sont des contrats de protection financière entre acheteurs et vendeurs. La mécanique est celle-ci. Plus il est conclu de contrats financiers, quelconques, plus les banques inventent de monnaie crédit, avec en contrepartie les dépôts scripturaux nécessaires à la réalisation de ces contrats. Si dans un premier temps, aucune monnaie officielle n'est nécessaire, par contre, le dénouement des contrats à terme ou leur escompte immédiat appelle cette monnaie officielle centrale en contrepartie. Toute sortie de capitaux des comptes bancaires en monnaie exige que la banque centrale ait donc émis cette monnaie juste avant. Il s'agit donc d'une dépression creusée sous les pieds de la BCE, la contraignant à émettre de la monnaie plus qu'elle ne peut en payer par les contreparties en devises qu'elle détient. La BCE est donc appelée à sauter à brève échéance sous la pression, scénario classique. Sauf qu'ici, il s'agit d'une déclaration de guerre à la moindre tentative d'échapper au contrôle du gouvernement mondial sectaro-bancaire, dont Goldman Sachs est évidemment un cadre supérieur et même probablement dirigeant. Ma réaction postée en commentaire à cet article fut celle-ci. Jouer au poker menteur avec des canailles ne devrait plus être permis aux banques centrales nationales et donc à la BCE. Spéculer à découvert, donc sans jamais avoir de garantie réelle, pour extorquer du pouvoir d'achat réel arraché au travail économique, doit être interdit par la loi comme un crime d'escroquerie majeur, avec trahison en sus pour nos nationaux qui servent l'ennemi, par la certitude de la peine de mort. Le marché doit être rétabli dans sa vérité et encadré par la loi naturelle. Les intermédiaires doivent se voir interdits toute entrée comme acteur personnel, direct ou indirect, sur le marché unique où ils opèrent. Le marché doit être ouvert et totalement transparent, de valeurs mobilières et de monnaie véritables, à l'exclusion de toute invention. C'est de l'esclavage des peuples dont il s'agit, et leurs gouvernants n'ont pas le droit de tolérer ces crimes contre l'humanité. Une loi forte doit être prise immédiatement, qui réinterdise, comme avant, aux intermédiaires d'entrer comme acteurs, directement ou indirectement, sur le marché. Ce qui se produit de nos jours était prévisible. Quand la bielle se fait roue, la locomotive déraille et les passagers des wagons meurent écrasés. Dans l'actualité économique monétaire, écho 3. Errare humanum est, perseverare diabolicum. La grande fête mondialo-bancaire du mariage officiel du politique avec la banque eut lieu le week-end du 8-9 mai 2010. Comme tous les mariages, celui-ci restera dans l'histoire et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité entière, régnant sur le monde entier en détruisant la nature. Comme tous les lendemains de fêtes fortement arrosées, le soleil se leva lundi 10 mai 2010 sur le monde abruti par les excès de dopage monétaro-bancaire alcoolisé, amplifié par les médias aux ordres. La sono-médiatique avait abruti les oreilles et les cervelles, embrumées déjà par l'ignorance totale des peuples de ce monde monétaire ultra-sophistiqué. Le réveil fut enchanteur encore dans l'euphorie des fêtes du dimanche. Les marchés financiers virent leurs indices truqués par la réduction à quelques valeurs, elles-mêmes manipulées, grimper en flèche. Sauf en Allemagne, où le plus 1,73% paraissait bizarrement timide en regard des plus 9,68% du CAC 40, qui passa de 3417 le 7 mai à 3761 le 13 mai, avant de retomber le lundi 17 mai à 3543. Lui-même euphorisé, ce CAC 40, plus euphorisé que les voisins espagnols, portugais, grecs, etc. Il faut dire que les banques françaises étaient les plus exposées au monde, avec 25% des encours de créances sur la Grèce. Le total, le dollar US, plongea de 2 centimes et repassa la barre des 1,30 contre 1 euro. Je cite. Les médias s'empressèrent de diffuser ce bref cocorico du matin. Dès le soir venu, les vapeurs euphorisantes perdaient de leurs effets. Le dollar est remonté en ce mardi 11 mai à 0,7879,20, soit 1,27 même pas, plus haut que le vendredi précédent donc, avant de toucher les 0,8150 lundi 17 mai. Les médias se taisent. La BCE intervient pour défendre sa monnaie et en ce mardi matin 18 mai, le dollar a été redescendu artificiellement et sûrement très brièvement à 0,8050. En somme, ce qui s'est passé fut d'un classicisme désarmant. Durant le week-end, les gouvernants ont fait comme leurs prédécesseurs depuis 75 ans. Ils ont préparé leur coup et organisé une hausse subite sur les marchés, comme on dit, pour favoriser le succès de leur dévaluation monétaire de l'euro, monnaie de 14 pays européens confédérés contre le dollar de 52 pays fédérés. Cette dévaluation était inévitable, depuis longtemps réclamée par tous les pays de la zone euro du sud de l'Europe. La Grèce a donc obtenu la dévaluation dont elle avait besoin, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et bien sûr la France. La chancelière allemande, affaiblie par sa défaite politique, a dû céder. Elle osa même déclarer que par les mesures prises, elle protégeait l'épargne des Allemands au moment même où celle-ci suivait les autres dans une perte évidente de pouvoir d'achat international du fait de la dévaluation. Tous ces gouvernants républicains européens mentent tellement qu'ils ne se rendent même plus compte que c'est devenu évident. Comme toutes les dévaluations, elle est fragile. D'où cette technique de la hausse artificielle des marchés pour tenter d'assurer la confiance dans la monnaie dévaluée. Il est évident qu'elle est ratée. En effet, elle est ratée, car d'abord, personne n'en connaît le taux, secret bien gardé, à l'abri des taux de change fluctuants. Ce phénomène masque la dévaluation qui n'est plus cet acte souverain clairement affiché qu'il fut dans le passé. On peut cependant estimer la dévaluation acceptée dans un ordre de grandeur de moins 25%. Ce qui amènera progressivement mais rapidement le dollar à 1 pour 1 avec l'euro, comme je l'ai déjà indiqué et comme cela se confirme. Comme dans toute dévaluation, il y a les perdants, les créanciers et les gagnants, les débiteurs. Mais, désormais, tous les jeux sont pipés et inversés. Les débiteurs perdent et les créanciers, les banques, toujours gagnent. En effet, depuis 2 ans bientôt, les milliards n'existent pas et sont inventés par les banques à gros flots, ouvertement. Alors que le 27 avril, on nous parlait d'un effort insurmontable à fournir de 45 milliards d'euros, comment en effet sortir tout à coup lundi 10 mai, 2 semaines plus tard, 750 milliards d'euros qui n'existent pas de nulle part? Ils ont donc été créés ex nihilo de manière scripturale, par l'ingénierie financière désormais capable de vous fabriquer des milliards d'euros synthétiques, véhiculant l'antimonnaie satanique dans l'explosion euphorisante d'une corne d'abondance, transformant les dettes titrisées en créances, les créances en monnaie scripturale, la monnaie scripturale en monnaie officielle, via la mécanique du système bancaire, cartélisé, et de son secrétariat général, la pseudo-banque centrale européenne. Réunis autour de la table du poker menteur mondial, les chefs d'État se sont vus servir à la fois du jeu et de la monnaie par les escrocs syndiqués afin de jouer et de perdre, encore plus qu'avant, en contrepartie de reconnaissance de dettes supplémentaires de leur part. Les banques ne cherchent pas à ramasser de la monnaie, elles savent qu'elle est fausse puisque c'est elles qui l'ont inventée, mais elles ramassent le pouvoir, qu'abandonnent ainsi dans l'euphorie de leur lâcheté et de leur incompétence les chefs d'État qui ne sont plus chefs de rien du tout. Désormais, les banques commandent ouvertement aux politiques et les élections ne seront plus officiellement que des formalités sans aucune importance. Tout candidat qui voudrait reprendre le pouvoir des mains des banques se ferait immédiatement calomnier, marginalisé, lynché, arrêté, emprisonné durant les 1 an et demi de campagne et sans doute même assassiné s'il devenait trop valable, s'il était trop pur et si ses chances montaient trop haut dans les sondages. Les lâches passeront, les courageux mourront. Telle est la loi de la jungle actuelle. Bien sûr, on a le droit d'imaginer que Nicolas Sarkozy essaye de jouer au plus fin, en attrapant les banques à leur propre jeu, ce qu'il ne pourrait alors évidemment pas divulguer. Mais franchement, je ne lui donne pas, même dans ce cas, une chance contre 100, et un vieux proverbe qu'il n'applique malheureusement pas me revient en mémoire. Quand on veut dîner avec le diable, il est prudent de n'utiliser qu'une très longue cuillère. Il est bien trop proche des banques de New York, puisqu'il s'est fait élire grâce à elles, et n'utilise donc que des couverts de taille normale bien trop courts. La France et les Français se font bouffer tout cru. Voilà ce qui arrive quand les BCN se soumettent à une banque centrale européenne, elle-même réduite au triste rôle de simple secrétariat des grandes banques d'affaires, de dépôts et d'assurances internationales, et admettent l'inversion des rôles. Bref, conclusion. Voilà 3 exemples de confusion des genres, favorisant l'avènement de la loi du plus fort, celle des escrocs, au service de l'avènement du gouvernement mondial. Voilà une pseudo-légitimité qui signe son auteur, Satan, grand maître de la confusion. Comme par hasard, la franc-maçonnerie est une secte qui adore Satan comme Dieu et voit en Dieu le vrai Satan. La FM ressemble à ses temples. Avec leurs autels au nord, elles se mettent en travers du sens de la marche est-ouest de la Terre, rappelée par les Églises catholiques de Jésus-Christ, qui nous indique toujours, lui, le chemin de la vérité et de la vie contre celui de la mort. À la prochaine fois, madame, mademoiselle, monsieur, auditeurs de Radio Silence.